Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 3 octobre 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 181 du podcast. Et aujourd'hui, je vais vous parler principalement de trois choses. Premièrement, l'investissement du gouvernement dans la construction de la méga-usine de Northvolt. Ça va être sur la rive sud de Montréal. Et en fait, c'est une usine qui va produire des batteries pour les voitures électriques. Donc, je vais vous parler de ça. Deuxièmement, je vais aussi vous parler de la chute des marchés boursiers, autant américains que canadiens. Donc, on a pu voir la bourse de Toronto qui est en chute libre depuis quelques jours, quelques semaines. Donc, je veux parler de ça. Et finalement, je veux aussi couvrir la panne des services bancaires en ligne du côté de la banque Laurentienne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Et qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite. Donc, c'est pas mal les trois sujets de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer tout de suite l'épisode en parlant de l'investissement du gouvernement dans Northvolt, qui est en fait la compagnie suédoise qui fait la production de batteries pour les voitures électriques. Et là, en fait, l'investissement, ça concerne la construction de la méga-usine sur la rive sud de Montréal. Donc, il faut savoir qu'on parle d'un financement de 2,7 milliards de dollars plus des subventions qui vont aller à la hauteur de 4,6 milliards. Donc, grosso modo, on parle d'un investissement d'environ 7 milliards de dollars avec l'argent public, donc l'argent des contribuables. Et ça, c'est le plus gros investissement manufacturier de toute l'histoire du Québec. Donc, tant qu'à moi, c'est sûr que c'est pas le rôle du gouvernement de financer des startups puis de miser sur des entreprises étrangères. Comme je vous dis, Northvolt, c'est une entreprise qui est suédoise, puis ça fait pas non plus 20 ans qu'elle est en opération. Là, je pense que c'est 2017-2018, donc ça fait 5-6 ans que ça roule. Encore là, pour une entreprise de cette envergure-là, dans ce domaine-là également, les voitures électriques, ça reste un domaine qui peut être à risque avec toute l'évolution de la technologie de ce côté-là. Et oui, c'est sûr que dans ce 7 milliards de dollars-là, il y a une partie que c'est un prêt remboursable et il y a une autre portion aussi que c'est des parts de l'entreprise. Donc, c'est sûr que théoriquement, si Northvolt connaît un grand succès, ben premièrement, il va se faire rembourser son prêt et deuxièmement, le gouvernement pourrait faire de l'argent avec ça, c'est-à-dire avec une partie des profits de l'entreprise. Par contre, historiquement, le gouvernement n'a pas eu un bon taux de succès avec ce type de pari-là. C'est pas le rôle du gouvernement d'agir comme un investisseur en capital de risque. Puis tu sais, ça c'est mon opinion, mais l'autre problématique avec ça, c'est que le gouvernement, il ne veut pas couper sur les dépenses, toutes les dépenses gouvernementales. Donc, il ne veut pas couper là-dessus parce qu'évidemment, ça va faire un émoi au niveau des contribuables qui bénéficient de ces services gratuits-là. Et l'autre chose, de l'autre côté, ils ne veulent pas non plus augmenter les taux d'imposition. Encore là, même principe, quel parti politique veut être le parti politique qui a dit « bon, on augmente les taux d'imposition sur les particuliers et les entreprises ». Donc, c'est sûr que le fait qu'on ne veut pas couper sur les dépenses d'un bord puis qu'on ne veut pas augmenter le taux d'imposition de l'autre côté, ça fait en sorte qu'on se retrouve dans un déficit budgétaire. Autrement dit, les revenus du gouvernement ne suffisent pas à couvrir toutes les dépenses qu'il doit faire. Et là, par-dessus ce déficit-là, on rajoute un investissement de 7 milliards de dollars qui est encore une fois l'équivalent de faire du capital de risque avec de l'argent qu'ils n'ont même pas. C'est un peu comme si tu avais un ami qui était super endetté, que son budget mensuel il est déficitaire dans le sens qu'il n'y a pas assez de revenus pour couvrir ses dépenses, puis que là, il t'annonce qu'il faut qu'il emprunte encore plus de cash parce qu'il y a un projet d'investissement. Là, tu lui dirais, là, tu peux-tu régler tes problèmes de finances personnelles avant d'essayer d'investir dans n'importe quoi? La seule différence qui est quand même majeure, c'est que une compagnie privée ou un individu qui décide de prendre cette décision-là, ça lui appartient. Versus, si jamais le Northvolt, ça ne fonctionne pas, ben ça va être les contribuables qui vont se retrouver avec la facture qui va se rajouter sur la dette publique du Canada. Et l'idée, c'est pas tant de se dire que c'est pas grave, de toute façon, on va jamais rembourser la dette du Canada. C'est plus de comprendre que à chaque fois que le gouvernement fait une dépense puis qu'il n'y a pas les fonds pour la faire, faut qu'il imprime de l'argent. Et ça, on le sait, ça déprécie le dollar. Plus il y en a en circulation, moins chaque dollar, il vaut de quoi. Et encore une fois, ça crée de l'inflation. Et là, on est dans un contexte où les banques centrales augmentent les taux d'intérêt pour ralentir l'économie, pour freiner l'inflation. Et de l'autre bord, tu as le gouvernement qui continue à faire des dépenses, à fournir des aides, à faire des investissements et toujours en se finançant avec de la dette. Parce que l'argent, il l'a pas. On est dans un déficit budgétaire. Les revenus ne suffisent pas à couvrir les dépenses. Puis là, tu en rajoutes par-dessus ça. Et c'est un peu pour ça que je suis pas pour le financement de ce type d'entreprise-là. Pour moi, c'est pas le rôle du gouvernement de miser sur des compagnies puis de gambler l'argent des contribuables sur des projets comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas aux véhicules électriques ou à l'avenir de l'entreprise Northvolt. Je considère juste que c'est pas dans la liste de tâches ou la liste de responsabilités du gouvernement de faire du capital de risque. Sinon, si on regarde du côté des marchés financiers, donc les marchés boursiers, on peut voir que ce matin, tous les indices sont dans le rouge, donc le TSX, le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones, le Russell 2000, tout est dans le rouge ce matin. Et si on regarde le graphique du S&P 500, on peut voir que, en fait, il vient de franchir à la baisse son niveau de support. Le niveau de support qui était en fait la ligne inférieure du corridor haussier. Pour ceux qui sont abonnés à l'infolettre, vous avez déjà vu l'analyse technique que j'ai faite sur l'indice S&P 500. Mais sinon, on peut voir que l'indice se dirige tranquillement, pas vite, en fait rapidement, vers sa moyenne mobile sur 200 périodes. On est tout près. Et si jamais le S&P 500 traverse à la baisse sa moyenne mobile sur 200 périodes, c'est un signal que les marchés américains pourraient amorcer une forte tendance baissière. Parce que, comme je vous dis, la moyenne mobile sur 200 périodes, ça agit comme un support. Donc, si on traverse ça à la baisse, on est en direction pour un fort momentum baissier. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux surtout mettre l'emphase sur les actions canadiennes qui sont fortement en baisse. Si on regarde l'indice boursier S&P TSX Composite, donc l'indice de la bourse canadienne, on a pu voir que l'indice a perdu quasiment 2% hier et qu'aujourd'hui, il poursuit sa chute. On est à moins 0.8%, donc quasiment moins 1%. Et qu'est-ce qui vient un peu expliquer la chute des marchés canadiens? En fait, c'est que premièrement, hier, on obtenait les données du PMI au Canada pour le mois de septembre, donc le mois passé. PMI, ça veut dire Purchasing Manager Index. Donc, en gros, l'indice PMI, c'est sous forme de sondage et ça sert à mesurer la performance du secteur manufacturier. C'est basé sur les nouvelles commandes, la production, les emplois, les délais de livraison des fournisseurs et également les inventaires d'articles achetés. Donc, pour le mois passé, l'indice PMI il était à 47,5. Il faut savoir que pour le PMI, une valeur qui est en dessous de 50, ça signifie une contraction du secteur manufacturier. Donc là, à 47,5, c'est le plus bas niveau du PMI depuis le deuxième trimestre de 2020. Et je vous rappelle qu'en 2020, au deuxième trimestre, l'économie était pratiquement stoppée parce qu'on était en pleine pandémie avec les confinements, les lockdowns, tout ça. Concrètement, une contraction dans le secteur manufacturier, ça veut dire qu'il y a un ralentissement dans la fabrication d'un paquet de produits comme l'habillement, les vêtements, les meubles, les automobiles. Ça concerne également l'industrie alimentaire, pharmaceutique. Donc, on peut se servir de l'indice PMI pour anticiper l'environnement économique dans lequel on se dirige. Et pour l'instant, avec le 47,5, ce qui est une contraction, on peut constater que le sentiment est plutôt pessimiste. Donc, en se fiant à l'activité dans le secteur manufacturier, on peut déjà prévoir un certain ralentissement du côté de la consommation. Donc, ça va être quelque chose qui va se concrétiser dans les prochains mois, les prochains trimestres. Donc, hier, avec le PMI pour le mois de septembre au Canada, on a pu voir les actions des banques canadiennes qui ont droppé. Même chose pour les entreprises de télécommunications et même chose également pour les compagnies pétrolières. Entre autres, on a pu voir le prix des actions de TELUS, BCE et Enbridge. Toutes les trois ont chuté de plus de 3% dans la journée d'hier. Et aujourd'hui, si on regarde le graphique de l'indice S&P TSX, on peut voir qu'on est passé en dessous du niveau de support qui était en fait un corridor entre 19 200 points et 20 800 points. Donc, c'était un trading range qu'on était à l'intérieur depuis un certain temps, quasiment un an. Et là, en fait, en tombant en dessous de ce niveau-là, l'indice est retourné au point où il était il y a quasiment un an, donc en novembre 2022. Et du point de vue de l'analyse technique, la cassure de ce niveau, de cette zone de support-là, ça l'indique que la bourse de Toronto pourrait amorcer un fort momentum baissier. Et quand je dis amorcer, c'est quelque chose qui pourrait durer des jours, des semaines, des mois. Et ça fait longtemps qu'on rebondissait sur ce fameux niveau de support-là. Mais là, ce matin, ça a été définitivement brisé. C'est à voir si ça va vraiment clôturer en dessous de ce niveau-là. Et c'est à voir demain également si la chute va se poursuivre. Et d'ailleurs, une autre raison pour la chute de la bourse de Toronto, c'est la baisse du prix du pétrole brut qui avait atteint 95 $ US jeudi passé. Là, je parle du pétrole brut WTI. Et ce matin, ce même baril de pétrole-là, il est rendu autour de 89 $ US le baril. Donc, légère chute de ce côté-là. Et le secteur de l'énergie, ça a un poids important dans l'indice S&P TSX Composite. Dans le fond, on parle d'une pondération de 20% de l'indice qui est dans le secteur pétrolier, gaz naturel. Donc, c'est sûr que quand les titres pétroliers, ils chutent, ben l'indice va dans la même direction. Et là, avec justement l'anticipation d'un ralentissement économique, ben il y a beaucoup de monde qui croit que la demande de pétrole brut, elle va diminuer. Et c'est ça qui fait en sorte que le prix du baril est retourné en dessous de 90 $US. Mais personnellement, je reste de l'opinion que le baril de pétrole brut WTI, il va quand même se retourner à la hausse et il va se rendre pas loin de la barre du 100 $US le baril. Du moins, c'est ce que je m'attends du côté du pétrole brut. Et sinon, comme je vous dis, un autre secteur qui subit actuellement de la pression, c'est les banques canadiennes. Et je vous rappelle aussi que les services financiers, ça représente environ 30% de l'indice S&P TSX Composite. Donc, au même principe que le secteur de l'énergie, c'est sûr que quand les actions des banques sont en baisse, l'indice fait la même chose. Et ce matin, la plupart des titres bancaires comme la Banque Royale, la Scotiabank, la BMO, ils ont brisé un niveau de support important. Toutes les banques sont dans le rouge, c'est juste que ces trois titres-là, ils ont en plus brisé un point de support qui était solide. Donc, même principe que pour l'indice, théoriquement, le mouvement baissier devrait se poursuivre pour ces actions-là. Encore là, l'idée, c'est pas d'essayer d'acheter au plus bas, c'est juste que selon le graphique, et là je parle le graphique de l'indice ou le graphique des actions bancaires, ben on vient d'obtenir une confirmation comme de quoi que c'était le début d'un momentum baissier. Donc pour les investisseurs à long terme, ça pourrait être potentiellement le temps de se remettre en mode acheteur. Ça se peut que dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, il y ait des opportunités qui se présentent de ce côté-là, qu'il y ait des actions qui tombent en rabais. Encore là, ça ne veut pas dire que les actions baissent pour rien. Il y a une partie de ça qui est justifiée. Je pense que, comme je vous dis, la peur d'une récession, elle est là. Par contre, si votre horizon de placement est à très long terme, Même si ça ne remonte pas l'année prochaine, c'est pas grave. Ça peut être une belle, ça peut être un bon moment d'amorcer une position. Puis si ça continue de baisser, ben tu en rajettes d'autres. Donc encore là, ça dépend de votre horizon de placement puis de votre profil d'investisseur. Si tu as 75 ans, c'est peut-être pas la meilleure stratégie d'investir dans les actions en ce moment. Parce que si tu as besoin de décaisser dans 2 semaines, t'es mieux d'opter pour des titres à revenu fixe ou d'autres types de placements qui risquent d'être pas mal moins volatiles que les actions pour la prochaine année. Et justement, en parlant des banques canadiennes, ça m'amène à vous parler des services bancaires en ligne de la Banque Laurentienne qui ont été en panne pendant 6 jours la semaine passée. Donc autrement dit, les clients de la banque, ils ne pouvaient pas accéder à leur compte de banque en ligne là, sur Internet ou sur l'application. Ils ne pouvaient pas voir le solde de leur compte bancaire. Ils ne pouvaient pas faire de virement Interac ou encore payer des factures là, directement avec ajouter un fournisseur, payer la facture en ligne. Donc, en partant pour le monde un peu serré, ne pas savoir combien il reste dans ton compte de banque, ça peut être stressant. Mais tu sais, en même temps, même le monde qui ont bien de l'argent en banque, là-dedans, il y en avait qui avaient peut-être un loyer à payer le premier du mois, puis qu'ils ne pouvaient pas. Il y en a peut-être qui se demandaient si leur paye avait réussi à être déposée ou si leur permis hypothécaire était passé comme du monde, etc. Donc, c'est sûr que ça a amené beaucoup d'inquiétudes pour les clients de la banque laurentienne. Puis c'est normal aussi, là. C'est ton cash à toi, tu l'as gagné. Puis oui, tu le déposes dans un compte bancaire, mais tu sais, quand tu veux le sortir ou que tu en as besoin, c'est mieux de fonctionner. Là. Sinon, c'est sûr que tu trouves pas ça drôle. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai vraiment l'impression que il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une banque, c'est comme magique puis que tout fonctionne sans aucun problème. Mais tu sais, c'est pas vrai. Là. Une banque, c'est pas à l'abri de problèmes informatiques, de panne de réseau, de fuite de données personnelles. Puis techniquement, en fait, une banque, ça peut même faire faillite. C'est pas pour rien que ça existe la SADC. La SADC qui est la Société d'assurance dépôt du Canada. Et en fait, cette organisation-là, elle couvre jusqu'à 100 000 $ par type de compte. Donc un compte de bancaire, un CELI, REER, etc. Donc la SADC, en cas de faillite de votre institution bancaire, ça risque à vous couvrir cette somme-là. Donc pour une majorité de gens, c'est sûr qu'il y a une partie de leur liquidité qui est garantie via la SADC. C'est sûr que quand tu tombes dans les demi-millions, millions et plus, ben là, la SADC, elle ne pourra pas te protéger bien longtemps. Et là, je divague un peu, là, c'est-à-dire qu'on va revenir à la Banque Laurentienne. La Banque Laurentienne, qui est la plus petite banque canadienne cotée en bourse, il y a 57 succursales qui sont toutes situées au Québec et on compte environ 3000 employés. Donc, juste pour faire une comparaison avec les autres banques canadiennes, en termes de capitalisation boursière, on parle d'un market cap de 1,2 milliard pour la Banque Laurentienne, comparativement à, par exemple, un market cap de 80 milliards pour la Banque de Montréal, la BMO, et de 160 milliards pour la Banque Royale. Donc, la Banque Laurentienne, avec juste un peu plus de 1 milliard en capitalisation boursière, c'est une petite institution financière. D'ailleurs, un peu plus tôt cette année, la Banque Laurentienne s'était mise en vente, c'est-à-dire que la Banque Laurentienne espérait qu'une autre institution financière les achète, donc sous forme d'enchères, mais finalement, les offres d'achat n'étaient pas suffisantes, n'étaient pas assez bonnes, et la Banque Laurentienne a décidé de renoncer à cette transaction de vente-là. Donc la Banque Laurentienne qui n'est plus en vente. Et du côté du prix de l'action de la Laurentienne, comme pour les autres banques canadiennes, le prix est en baisse depuis janvier 2022. Et là, la panne des services en ligne qui a duré 6 jours, ben, ça n'a pas énormément affecté le prix de l'action. En fait, du 25 septembre à aujourd'hui, l'action est passée de 30 $ à peu près 28 $. Donc, c'est pas catastrophique comme baisse de prix. Et à noter que la PDG de la Banque Laurentienne, elle a quitté ses fonctions suite à ça et elle a été remplacée par un nouveau PDG qui, lui, ben, il se retrouve en pleine situation de gestion de crise Par contre, soyez pas trop triste pour l'ancienne PDG parce que, d'après moi, avoir touché une coupe de millions avec son indemnité de départ, déjà que la madame faisait pas loin de 3 millions l'année passée. Donc, c'est pas si mal, même si elle a été renvoyée de son poste. Sinon, on parle également d'une action collective qui est contre la Banque Laurentienne. Il y a déjà un cabinet d'avocats qui est sur le dossier. Faut savoir qu'il y a quand même 350 000 clients qui ont tous été affectés par la panne de service et à ce moment-là, ils pourraient être dédommagés. Et là, évidemment, le plus gros défi de la Banque Laurentienne, c'est surtout en fait de regagner la confiance de sa clientèle parce qu'eux autres, ils veulent s'assurer que le client décide pas tout de fermer le compte de banque puis de changer d'institution bancaire. Déjà, la Banque Laurentienne, c'était peut-être pas la meilleure banque canadienne, c'était pas elle qui avait la plus belle picture. Sauf que là, si on parle d'un exode d'une majorité de leurs clients, ça pourrait être catastrophique pour la Banque Laurentienne. Bref, on va avoir un peu plus de détails sur tout ça dans le dévoilement des prochains résultats financiers. On va savoir un peu c'est quoi la picture au niveau des dépôts, est-ce qu'il y a des gens qui ont quitté, puis ça a été quoi le coût finalement de tout ça. Et pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, je tenais à vous dire qu'on est rendu au dernier trimestre de 2023, donc il reste 3 mois avant la fin de l'année. Et au lieu d'attendre au 1er janvier pour vos résolutions du nouvel an, moi je pense que ça serait mieux de commencer aujourd'hui, puis d'avoir de l'avance sur le reste du monde, c'est-à-dire de profiter des 3 mois qui restent pour faire un plan de match par rapport à vos finances personnelles, puis par rapport à vos investissements ou par rapport à votre entreprise. C'est-à-dire que je peux déjà vous dire que 2024, ça ne sera pas une année facile. Peu importe ce qu'ils disent les économistes ou les prévisions du ministre des Finances, en 2024, les taux d'intérêt vont rester élevés. L'inflation, elle ne sera pas disparue, c'est-à-dire qu'il va y avoir encore une continuité au niveau des hausses de prix. Je m'attends également que le prix de l'essence, ça soit un facteur important dans l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire qu'il y a un rebond du côté de l'inflation. Donc, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable puis espérer qu'il arrive un miracle. On est mieux de prévoir le coup, anticiper une période qui va être plus précaire, puis tant mieux au final, c'est pas aussi pire qu'on avait prévu. Posez-vous la question, est-ce que j'ai assez d'argent de côté si jamais il m'arrive un imprévu? Un imprévu, ça peut être une crevaison sur votre char, ça peut être une réparation dans votre maison, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que vous avez des liquidités disponibles, un fonds d'urgence pour ça? Est-ce que vous avez assez d'argent de côté pour toffer 3 mois, 6 mois? Qu'est-ce qui arrive si jamais vos revenus ils diminuent ou si vous perdez votre job? Combien de temps vous pouvez toffer là-dedans? L'autre volet, c'est aussi de se poser des questions du côté des dépenses. C'est-à-dire que, est-ce que votre renouvellement hypothécaire s'en vient l'année prochaine, quelque part en 2024? Si oui, prenez le temps de calculer vos nouvelles mensualités puis de voir si, avec ces nouveaux versements-là, est-ce que ça fonctionne dans votre budget actuel? Êtes-vous en mesure de payer tout ça? Le point, c'est que les hausses du taux directeur, ils commencent présentement à prendre effet sur l'économie et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent encore qu'on va parvenir à éviter une récession, que ce ne sera pas si pire que ça, mais tant qu'à moi, le ralentissement économique est inévitable, je ne sais pas l'ampleur de ce ralentissement-là. Donc, dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est de prendre de l'avance. Comme je vous dis, il reste 3 mois avant la fin de l'année 2023. C'est le temps de réfléchir pour ajuster vos dépenses, apprendre des nouvelles compétences pour peut-être trouver d'autres sources de revenus. Bref, en ce moment, la pire stratégie à faire, c'est d'attendre que ça passe. Si tu es passif ou si tu fais rien puis que tu ignores tes problèmes, ça les élimine pas. Ils restent là en arrière-fond. Mais maintenant, faudra que tu payes ton solde de carte de crédit. Il y a encore des intérêts à payer sur ta marge de crédit. Tu as peut-être des versements hypothécaires plus gros qui s'en viennent. Tu as peut-être de l'amortissement négatif. Je connais pas la situation de tout le monde. La seule chose, c'est que présentement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en arrachent. Puis du côté des finances personnelles, c'est devenu beaucoup plus difficile. Et 2023, c'est le début. Ça risque de rempirer en 2024. Donc, il faut prendre action, puis il faut trouver des solutions à votre situation actuelle. Puis, tu sais, il y en a. Puis, tu sais, de mon bord, l'idée du podcast, c'est de vous partager mes opinions par rapport à l'économie, aux investissements, à la bourse, tout ça. Mais, tu sais, écouter, c'est correct. T'sais, s'informer, être à jour, c'est fantastique. Mais après ça, faut l'utiliser, cette information-là, parce que sinon, tant qu'à ça, écoute toutes sortes d'autres podcasts qui vont parler d'affaires pour te faire rire. Mais si tu prends le temps d'écouter ce podcast-là, tu prends le temps de t'informer sur tes placements puis qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers, tu as déjà un edge. Là, c'est juste de profiter des informations supplémentaires que tu as puis d'en profiter en prenant des meilleures décisions financières. Et pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, je veux aussi vous parler d'une espèce de projet que je veux mettre en place, c'est-à-dire que ça fait un certain temps que je mets les épisodes du podcast disponibles sous format vidéo sur YouTube. Et l'idée derrière ça, c'est de venir rajouter en fait des éléments visuels, que ce soit des graphiques, des données, pour venir en fait bonifier un peu. Je ne veux pas juste voir ma grosse face en vidéo, c'est plus de donner de la valeur à ceux qui regardent le podcast au lieu de juste l'écouter. Donc, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube qui est Traders360. Abonnez-vous. Puis moi, je vais voir avec le nombre de nouveaux abonnés s'il y a un intérêt pour ça. Et si c'est le cas, en début 2024, je vais commencer à mettre d'autres types de visuels dans mes podcasts pour vraiment donner le plus d'informations pertinentes et pas juste sous format oral. Je veux également que vous voyez les graphiques que je vous parle, que ce soit pour de l'analyse technique, des données économiques, des comparatifs, etc. Donc, c'est un peu la stratégie que j'ai en tête. Donc, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Traders360 si cette avenue-là, vous trouvez ça pertinent. Autrement, continuez d'écouter sur Spotify ou Apple Podcasts. Mais je vais regarder un peu le feedback que j'ai par rapport à ça et on va mettre en branle le projet par rapport à YouTube si jamais il y a de l'intérêt de ce côté-là. Donc, je termine l'épisode là-dessus. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.